Proverbe 22, verset 3. L'homme prudent voit le malheur ou le mal et se cache, mais les simples passent outre et en sont punis. Et deux textes de Jésus dans Matthieu, chapitre 7, verset 24. Matthieu 7, verset 24. Jésus, c'est la fin du sermon sur la montagne. Quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont portés sur cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Et Matthieu 10, verset 16, une autre parole de Jésus qui dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Nous parlons donc de la vertu de prudence. Nous lirons d'autres versets. Il n'est pas très facile de déterminer dans quel ordre traiter des vertus et des valeurs chrétiennes. Je ne me suis pas astreint pour notre série un ordre logique ou traditionnel. Vous vous souvenez peut-être que nous avions réagi à l'actualité lorsque, en traitant de la tolérance juste après les événements de Charlie Hebdo, nous avons aussi parlé de quelques vertus qui sont bien soulignées dans l'Écriture. Nous avons parlé déjà de la fidélité, de l'humilité, de la vérité, de la droiture. Il y en a d'autres encore, de ces grandes vertus. Nous les considérons justice, bienveillance, miséricorde. Mais ce matin, nous voulons considérer une vertu assez différente des précédentes, assez différente de celle que nous avons traitée jusqu'ici, la vertu de prudence. Il faut savoir que dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, dans la théologie du Moyen-Âge, la prudence était classée parmi les vertus cardinales, parmi le premier carré qui conditionnait toutes les autres vertus. Ce sont les vertus qu'il fallait développer par l'éducation. Les vertus cardinales sont la prudence, la justice, la force, la tempérance. Comment fonctionne ce carré? On pourrait dire que la justice a un caractère d'absolu. La justice, c'est donner à chacun ce qui lui est dû. On ne discute pas avec la justice. La force, elle, assure la fermeté des vertus face aux difficultés et aux obstacles. La tempérance a pour but de protéger les vertus chrétiennes de l'envahissement des désirs et des passions. C'est une vertu un peu protectrice. La prudence, elle, a été comparée au conducteur d'un char, au conducteur du char des vertus en quelque sorte. C'est elle qui va donner la règle et la mesure. C'est elle qui va intégrer les réalités du contexte, qui va anticiper l'avenir, qui va analyser les moyens adéquats à mettre en œuvre pour arriver au but que fixent les vertus chrétiennes. Vous voyez, c'est un petit peu comme cela que se situe la prudence, comme cette vertu qui sert de conducteur au char, hein, de certaine façon, pour conduire les choses. Voilà donc pour première manière de situer les choses, la vertu dans ses vertus cardinales. Nous allons dans un premier temps essayer de voir quelle est la place de la prudence dans la façon de considérer l'éthique chrétienne. Quelle est la place de la prudence? Et dans un deuxième temps, nous verrons quelques aspects plus concrets de la prudence telle qu'elle nous est décrite dans l'Écriture. Quelle est donc la place de la prudence dans l'ensemble des vertus et des vertus chrétiennes? Alors, il faut d'abord savoir que certains refusent de considérer que la prudence est une vertu morale. Certains refusent de la considérer comme une vertu morale. Et l'argument, c'est de dire que la prudence relève beaucoup plus de l'intérêt personnel que des principes moraux. Être prudent, c'est considérer ce qui peut réussir ou ne pas réussir dans une situation donnée. Être prudent, c'est examiner ce qui convient ou ce qui ne convient pas vu la situation. Ce n'est pas le devoir qui impose sa norme, ce n'est pas un principe qui tranche, mais on intègre la situation dans laquelle on se trouve, dans son champ de vision et dans le choix que l'on opère. Et l'on cherche ce qui est le plus favorable. Et c'est pourquoi certains disent que ce n'est pas une vertu morale, c'est l'intérêt personnel qui est en cause quand on parle de prudence. Et c'est pourquoi un grand penseur comme le philosophe Kant refusait donc vraiment de faire de la prudence une vertu. Kant, il faut le dire, développait une morale du devoir absolu. Hein, la morale de Kant, c'est le principe qui s'applique dans toute sa rigueur, qui s'applique par principe, justement, en toutes circonstances et quoi qu'il arrive. Et Kant dit, mais c'est ça qui fait la force de la morale, cet impératif absolu des principes, cet impératif qui s'impose dans sa pureté. La prudence, dit-il, est beaucoup trop du côté de l'intérêt des personnes, de l'avantage des personnes. Et Kant dit, il vaut mieux manquer à la prudence que de manquer à son devoir. Que faire, par exemple, si des assassins poursuivent quelqu'un et me demandent si cette personne est réfugiée chez moi? Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Kant dira, et c'est un exemple qu'il emploie lui-même, que j'ai un devoir absolu de vérité. Je dois dire à l'assassin, à ces gens qui veulent les assassins, que la personne est chez moi si elle est là. Devoir absolu de vérité. La vertu morale est un principe qui s'applique absolument, quelle que soit la situation, et qui me revendique totalement. Si on fait intervenir la prudence, on va considérer autre chose que le principe. On prendra compte éventuellement les risques que je fais encourir à ces personnes en disant qu'elles sont chez moi. Je me demanderai si c'est juste, si c'est bien d'encourager des gens qui veulent faire le mal en leur facilitant la route. Je me demanderai s'il ne faut pas faire barrage par tous les moyens à de telles personnes. Vous voyez donc la différence entre une morale de principe et une morale qui intègre la prudence et les situations. Et voyez que nous entrons ici quand même dans un débat qui est assez important. Nous parlons de vertu, nous parlons de valeur. Quelle est leur force? Quel sera leur impact très concrètement? Est-ce que nos vertus, nos valeurs chrétiennes sont des absolus, des impératifs qui doivent s'appliquer quoi qu'il arrive, simplement par principe? Ou est-ce que la prudence a une place légitime dans l'application de ces principes? Voilà le débat qui est levé par cette question de la prudence lorsque l'on considère l'éthique chrétienne. Alors avant de répondre à cette question, de dire est-ce qu'il n'y a que des principes ou est-ce qu'il y a place aussi pour des prudences, avant de répondre à cette question, il faut quand même prendre la mesure de ce qui fait notre contexte aujourd'hui et de ce qui nous conditionne aujourd'hui si facilement. La grande règle autour de nous, c'est de dire que l'on refuse les absolus. On refuse les absolus. Des impératifs éthiques, des valeurs morales qui s'imposeraient à tout et à tous, pour bien des gens autour de nous, c'est juste inacceptable. Ça fait peur. Et s'il faut mettre d'un côté les principes et de l'autre les situations, aujourd'hui, on va toujours privilégier les situations. Il faut voir la situation, comprendre et agir selon la situation. Ce qui compte, c'est trouver une conduite adaptée. Les principes peuvent donner une indication, mais ils ne sont pas des absolus, dit-on aujourd'hui. Chacun doit trouver dans ses situations ce qui est le plus adapté. Alors, il faut bien se rendre compte que cette manière de penser, elle a pris des visages différents. Autour des dernières décades. Je me souviens que dans les années 60, ce qu'on appelait le situationnisme essayait de privilégier au niveau chrétien l'idée que l'amour est la grande valeur. Et donc, ce qui compte, c'est de manifester l'amour. Chacun devait trouver en chaque situation ce qui exprimait l'amour, mais chacun le faisait à sa façon. Il n'y avait pas d'autres principes, d'autres règles que cela. Et c'est comme ça, par cette manière de voir les choses, qu'on a eu besoin à ce moment-là de se libérer d'un certain nombre de carcans, de règles morales qui enserraient beaucoup la société et parfois l'Église. Avec d'autres courants philosophiques comme l'existentialisme, ce qui a compté, c'est la liberté. La liberté est devenue la valeur suprême. Chacun doit pouvoir se réaliser authentiquement. Et cela ne se décide pas par avance. Ça dépend des situations, ça dépend des personnes. Hein. Et surtout pas, ça ne se décide pas par des principes qui s'appliqueraient à tous. Plus récemment, dans les dernières décades, ce qu'on appelle le postmodernisme a clamé haut et fort la fin de toute vérité. Il n'y a plus une vérité qui unifierait l'ensemble. Il n'y a que des vérités morcelées. Il n'y a plus de grands récits qui s'appliquent à tout le monde, mais chacun écrit son petit récit, son propre récit. Tout est morcelé. En termes éthiques, ça veut dire que la situation prime sur les principes, parce qu'il n'y a pas de principe valable universellement. Et globalement, dans nos sociétés occidentales, quels sont ces principes, ces valeurs? Les valeurs que l'on accepte tourneront globalement autour d'un humanisme de bon ton. Hein, un humanisme de bon ton. Mais les discours humanistes, avec leurs grands principes généraux et leurs bonnes intentions, ne résistent pas toujours aux injustices sociales, aux exclusions. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bien d'autres discours beaucoup plus radicaux prennent le relais des discours humanistes. Et l'intransigeance et l'intolérance de ces discours très radicaux fascinent ceux qui les endossent, mais renforcent les autres dans leur refus des absolus. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, toute affirmation un peu ferme de principes éthiques, surtout s'ils sont portés par des valeurs religieuses, toute affirmation de ce genre sera facilement taxée d'intolérance, de fanatisme. Plus que jamais, la fréquentation de l'absolu, la référence à l'absolu, devient difficile et délicate. C'est donc dans ce contexte qui est le nôtre qu'il faut trouver la place de la prudence. Quelle peut être cette place ? Quel peut être son sens ? S'il fallait résumer ma réponse en une phrase, voilà ce que je dirais. Je dirais que le sens de la prudence pour nous chrétiens est de favoriser une éthique de la responsabilité qui respecte le commandement de Dieu pour le traduire de manière applicable et concrète. Alors, c'est une phrase un peu dense, je vais prendre par petits bouts ce que j'entends par là. Nous avons parlé de l'exemple de Kant qui dit « Des malfaiteurs arrivent, quoi qu'il arrive, respectez le principe absolu de vérité. » Si on fait de la vérité ou d'un principe un devoir absolu sans se poser d'autres questions, on développe ce qu'on appelle une éthique de conviction. Une éthique de conviction qui affirme des principes et où on applique le principe éthique sans considérer les conséquences prévisibles de cette application. Hein, c'est ce que fait la personne qui dit « je dois être vrai, même si c'est des malfaiteurs qui me demandent une question, je dois répondre selon la vérité, je ne me préoccupe pas des conséquences. » Ça, c'est ce qu'on appelle une éthique de conviction. Hein? Et ce qui compte, c'est vraiment d'affirmer le principe et de vivre selon ce principe. Au contraire, si on considère aussi les conséquences prévisibles de mon action, si l'on se considère comme responsable de ces conséquences en disant « je dis la vérité dans cette situation-là », qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence ? Je dois aussi considérer cela. Si on pense comme cela, à ce moment-là, on développe ce qu'on appelle une éthique de responsabilité. Et donc, si vous voulez, éthique de conviction, éthique de responsabilité. Il y a ces deux éléments qui sont là comme deux pôles à considérer. Cette distinction entre éthique de conviction qui affirme les principes et éthique de responsabilité qui pense vraiment aux conséquences des actes, cette distinction elle a été exposée par un sociologue qui s'appelle Max Weber. Je vais juste vous lire, c'est un texte assez fameux, assez fondateur qu'il a dit et qui reprend ce que j'ai essayé de vous dire. Il dit « Il est indispensable que nous nous rendions clairement compte du fait suivant. Toute activité orientée selon l'éthique peut s'orienter selon l'éthique de la responsabilité ou selon l'éthique de la conviction. » Alors ça ne veut pas dire que l'éthique de conviction est identique à l'absence de responsabilité ou l'éthique de responsabilité à l'absence de conviction. Mais toutefois, dit-il, il y a une grande opposition entre l'attitude de celui qui agit selon les maximes de l'éthique de conviction et dans un langage religieux, nous dirions « le chrétien fait son devoir et en ce qui concerne le résultat de l'action, il s'en remet à Dieu » et l'attitude de celui qui agit selon l'éthique de responsabilité qui dit « nous devons répondre des conséquences prévisibles de nos actes ». Vous sentez la différence, c'est très marqué. Et ce texte est intéressant parce qu'il montre ces deux attitudes. L'une applique les principes sans prendre en compte la situation, sans prendre en compte les conséquences non plus. L'autre se sent responsable des conséquences prévisibles de l'acte. Alors comment nous situer ? En tant que croyants, je crois que nous pouvons et nous devons même parfois agir selon une éthique de conviction. J'agis selon ce que Dieu me dit et je m'en remets à Dieu pour la suite. Il y a des moments où c'est ce que nous sommes appelés à faire. Mais, me semble-t-il, ce fait de fonctionner selon une éthique de conviction ne peut pas être pour nous un raccourci. Et on ne peut pas simplement dire « j'applique les principes, je ne me préoccupe pas des conséquences » ou « Dieu s'occupera des conséquences ». On ne peut pas simplement faire ça comme une facilité. Nous devons aussi prendre en compte un certain nombre de conséquences de nos actes. Nous devons aussi réfléchir à la réalité de la situation et au fait que la façon dont nous allons nous comporter aura des conséquences qui dépendent aussi de nos choix. Nous ne pouvons pas simplement nous en remettre à Dieu pour toutes les conséquences. Nous devons aussi, comme dit Max Weber, répondre des conséquences prévisibles de nos actes. Et c'est ici qu'intervient justement la prudence. La prudence qui fait une sorte de pas entre l'éthique de conviction et une éthique de responsabilité, qui fait le pont entre les deux. Et c'est intéressant de voir que Max Weber les oppose. Il me semble que nous, du point de vue chrétien, nous devons essayer de trouver une façon de les unir. Alors comment est-ce que ça fonctionne ? Nous sommes appelés à une éthique de la responsabilité qui prend en compte quand même la situation, qui prend en compte les conséquences de nos actes. Mais en même temps, comme je l'ai dit, nous sommes appelés à exercer cette éthique de la responsabilité dans le respect du commandement de Dieu. Et ça demeure quand même quelque chose qui est toujours pour nous. Nous ne parlons pas d'éthique de la responsabilité pour dire « il n'y a pas d'absolu » ou pour dire « c'est l'homme et l'homme seul qui décide au vu de la situation ». Nous croyons que vraiment Dieu nous a donné sa parole, ses principes de vie. Nous croyons que cette parole, elle est sage, qu'elle est bonne, qu'elle est adaptée à nos situations. Et nous croyons aussi que l'on peut compter sur Dieu pour accompagner notre fidélité à sa parole. Et ça rappelle donc que notre prudence, la prise en compte que nous pourrons avoir des situations, elle restera toujours au service du respect des commandements de Dieu. Il est important, me semble-t-il, de le souligner. Mais en même temps, il faut que notre éthique soit applicable. Il ne faut pas que la façon de considérer l'éthique chrétienne soit une sorte de une éthique pure, idéologique, mais qui n'aurait aucune prise sur la réalité. Il faut trouver la façon dont les principes bibliques s'ajustent à la réalité concrète. peuvent entrer au mieux dans notre vécu. Il peut arriver qu'on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de ce que sont nos objectifs éthiques. Et là, il faut faire avec les situations. On a aussi ce devoir d'une éthique qui soit applicable. Et c'est ici que la prudence joue son rôle, la prudence qui réfléchit aux situations, aux conséquences, aux enjeux, à ce qui est possible. Donc nous avons besoin de cette vertu de prudence dans ce contexte-là. Et c'est pourquoi, et là je reprends la phrase que je vous disais tout à l'heure, c'est pourquoi je dis que le sens de la prudence pour nous chrétiens est de favoriser une éthique de la responsabilité, mais qui respecte le commandement de Dieu pour traduire ce commandement de manière applicable et concrète. Une dernière petite remarque concernant la place de la prudence dans l'ensemble des valeurs éthiques qui sont les nôtres. Une autre manière de situer le rôle de la prudence est de considérer la question des fins et des moyens. Les principes éthiques principaux donc, indiquent les objectifs à atteindre. Mais comment atteindre ces objectifs? Par quels moyens? La prudence offre à cet endroit-là ses services en cherchant les meilleurs moyens possibles. Et je crois que c'est une distinction intéressante et importante à faire. La prudence n'est pas une vertu qui détermine les fins, les objectifs éthiques. Le but de l'éthique chrétienne, ce n'est pas d'être prudent. La prudence n'est pas une fin en soi. Mais la prudence, les fins sont données par d'autres vertus chrétiennes. Elles sont données par la justice, la vérité, la droiture, l'amour, la fidélité, la générosité, le courage, des choses comme ça. Mais la prudence intervient comme une vertu qui aide à trouver les moyens adaptés à ces fins, à ces objectifs que donnent les autres vertus chrétiennes. Je crois que c'est intéressant de noter cette place de la prudence comme étant au service des moyens qui permettront d'atteindre les objectifs de l'éthique chrétienne. Voilà, si vous voulez, pour situer globalement la place de la prudence et les enjeux de cette question de la prudence. Ça a été un peu quelque chose de plus général, mais je pense que ça aide quand même à situer un débat important. Alors maintenant, j'aimerais donner quelques repères sur la façon dont la Bible parle de la prudence. Quelques aspects de la prudence selon la Bible. La première chose que j'aimerais dire, c'est le lien entre prudence et sagesse. Le lien entre prudence et sagesse. Première chose à souligner, c'est que pour la Bible, la prudence est d'abord une vertu intellectuelle. La prudence est d'abord une vertu intellectuelle. Dans notre langage à nous, quelqu'un de prudent, c'est quelqu'un qui fait attention avant de s'engager, qui veille à ne pas courir trop de dangers, qui ne veut pas prendre trop de risques. C'est comme ça qu'on considère la prudence. La prudence se situe quelque part du côté de la peur. Ça situe un peu les choses. Dans la Bible, il n'est pas ainsi. Un homme prudent, ce n'est pas quelqu'un qui a peur. Ce n'est pas quelqu'un qui craint. Un homme prudent, c'est un homme avisé, un homme qui réfléchit bien les choses. La prudence est du côté de la sagesse. La prudence, c'est de considérer, de bien considérer les différents aspects d'une situation et d'en tenir compte. La prudence, c'est de bien réfléchir à une situation donnée. Oui, c'est pour ça que je dis dans la Bible, la prudence est d'abord une vertu intellectuelle. Il ne faut pas penser prudent, ou j'ai peur, je ne veux pas trop en faire. Non, prudent, c'est la réflexion sur la situation, c'est être avisé. Un ou deux exemples. Lorsque Hiram, le roi de Tyr, qui était un grand ami du roi David, parle de Salomon, le fils de David, il dit, dans 2 Chroniques 2, verset 12, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre, de ce qu'il a donné au roi David, un fils sage, prudent et intelligent. Vous avez vu où intervient le mot prudent ? Sage, prudent et intelligent. C'est trois synonymes, si vous voulez. Et ça situe bien les choses du côté de l'intelligence, de la réflexion. Hein. C'est ça ce qu'était Salomon. Quand on établit des critères aussi à un autre endroit pour des jeunes exilés qui avaient été emmenés en Babylonie depuis Jérusalem et qui devaient servir Nebuchadnezzar. On cherche des jeunes garçons, des jeunes gens, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Et l'expression « doué de sagesse » est de la même racine verbale que quand on emploie le mot de « prudence ». Donc là aussi, ça dit que la prudence est du côté de la sagesse. La prudence est une qualité intellectuelle. C'est une qualité de réflexion, d'être avisé, d'avoir du bon sens, d'avoir du discernement. Elle est de ce côté-là, de la sagesse, de la réflexion. La vertu de prudence apporte donc aux autres vertus chrétiennes l'intelligence, la sagesse et la réflexion. Et c'est une marque des valeurs et des vertus qui est recommandée dans la Bible. Si on lit dans Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 17, Paul parle de la façon de vivre. Il dit « Soyez vraiment attentifs à votre manière de vivre. Ne vous montrez pas insensés, mais soyez des hommes sensés. » qui mettent à profit le temps présent, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas inintelligents, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. On est ici dans un contexte éthique, c'est la conduite chrétienne dont il est question. Soyez attentifs à votre manière de vivre, dit l'apôtre Paul. Mais de quatre façons différentes, Paul dit, il faut vivre selon ce que Dieu veut de nous, il faut vivre cela en toute intelligence, comme des gens sensés, comme des gens qui comprennent la volonté de Dieu, comme des gens qui ne sont pas inintelligents. C'est les mots que Paul emploie. Et on retrouve aussi ce même langage dans les proverbes qui disent que la réflexion, la raison liée à notre connaissance et à la crainte de Dieu doit vraiment nous guider sur les chemins de la vie. Je vous lis des extraits de Proverbes 2, versets 1 à 12. « Mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes préceptes, c'est à la fois un père qui parle et la sagesse, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte du Seigneur et tu trouveras la connaissance de Dieu. Alors, verset 9, tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal. » Vous voyez tout cela ? C'est très frappant de voir qu'on parle de la façon de bien se conduire, on parle de valeurs comme l'équité, la justice, la droiture, mais tout cela a besoin de l'intelligence, de la sagesse. Il faut appeler l'intelligence, appeler ses vertus pour que vraiment elles puissent éclairer notre conduite. Et dernier exemple, Paul, dans sa prière pour les Philippiens, demande aussi quelque chose qui va dans le même sens. Philippiens 1, verset 9, il demande « Que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vrai discernement, que vous sachiez ainsi apprécier ce qui est important afin d'être sincère et irréprochable au jour de Jésus-Christ. » Il est question de l'amour, mais il n'est pas simplement dit « ayez de plus en plus d'amour ». Mais non, mais que votre amour grandisse en intelligence, en discernement, en compréhension. Et on pourrait dire que ce qui est dit de l'amour, on pourrait le dire aussi de la générosité, du courage, de toutes ces vertus. que votre générosité augmente en intelligence, en sagesse, que votre courage augmente en intelligence, en sagesse. On est assez loin, on est très loin avec cette façon de Paul prie, du langage de Paul qui dit il faut appliquer du langage de Kant, pardon, qui dit il faut appliquer les principes uniquement. Paul dit les principes, oui, mais ces principes en toute intelligence, en discernement, etc., etc. On est assez loin aussi du langage unilatéral, d'une éthique de conviction, hein, qui dirait j'applique le principe et je laisse à Dieu les conséquences. Paul dit, mais que votre amour, que vos qualités éthiques, vous les développiez en tout discernement, en toute intelligence. Faire cela, ça veut dire s'intéresser justement aux conséquences de nos actes et pas juste remettre ça à Dieu et dire on verra ce que ça donnera. Une prière comme celle de l'apôtre Paul, au cœur de l'éthique chrétienne, elle apporte de la finesse, elle apporte de la sensibilité, de l'attention aux vertus chrétiennes et à l'application des principes que nous donne la foi. Et tout cela, c'est la vertu de prudence qui doit faire de nous des gens sensibles, des gens avisés, y compris dans notre manière de vivre les principes que nous donne l'Écriture, y compris dans notre façon de vivre les vertus chrétiennes. Donc ça, c'est le lien très important entre prudence et sagesse, hein, pour bien comprendre ce que l'on dit là. Deuxième point que j'aimerais souligner, c'est le lien entre prudence et conviction. Prudence et conviction. La vertu de prudence est aussi une attention à ce qui nous entoure, y compris dans la manière dont nous affirmons les convictions qui nous habitent. Mais j'aimerais ici dire quand même un point important. Et j'aimerais me faire bien entendre et bien comprendre. Tout le Nouveau Testament nous invite à une éthique de conviction qui soit forte. Tout le Nouveau Testament nous indique à briller dans ce monde d'une belle lumière par notre vie et par le témoignage que nous rendons. Nous sommes appelés à une obéissance radicale. Nous sommes appelés à mettre en œuvre une manière de vivre selon ce que Dieu nous demande, qui soit nette, claire et sans aucune ombre. Matthieu 5, versets 14 et 16, des extraits du Sermon sur la montagne. Jésus parle et dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Et la suite du Sermon sur la montagne nous rappelle que pour nous-mêmes, vivre cela implique une exigence éthique qui est élevée. Ça implique un sérieux à donner au commandement de Dieu. Et en ne nous contentant pas de l'extérieur, mais en allant vraiment au fond des choses. Vous vous souvenez comment Jésus, dans le Sermon sur la montagne, dit « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus va très loin dans ce qu'il dit. Il nous donne un objectif qui restera toujours devant nous. « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Ce qui veut dire que nous sommes appelés à aller jusqu'au bout des exigences de Dieu, jusqu'au bout de ce que Dieu nous demande. Et parler de prudence, ce n'est pas parler de dire « Oh, je veux faire juste un tout petit bout de tout ça, je peux choisir ce que je veux. » Nous sommes appelés à aller jusqu'au bout de ce que le Seigneur nous demande. C'est ce que dit Jésus dans le Sermon sur la montagne de manière très nette. Et cela peut signifier une obéissance radicale, disons-le. Luc 9, versets 23 à 24, c'est quand Jésus qui parle « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Quelle est la place de la vertu de la prudence en face de ces affirmations de Jésus? La place de la vertu de la prudence n'est certainement pas d'édulcorer l'engagement que nous demande le Seigneur. N'est certainement pas de nous faire vivre une sorte d'obéissance en demi-teinte au nom de la prudence qu'il faudrait toujours conserver. Ce n'est pas du tout cela le sens de la vertu de prudence. Et nous sommes appelés à une obéissance claire, entière, et même on pourrait dire radicale. C'est ce que Jésus nous enseigne. Donc ça, il est important de dire ça dans ce titre, prudence et conviction. Nous sommes appelés vraiment à aller jusqu'au bout de ce que le Seigneur nous demande. Alors où joue la prudence une fois qu'on a dit ça? La prudence va jouer dans notre manière de vivre nos convictions en relation avec les autres. Notre obéissance doit être et rester intacte, entière. Mais la prudence, me semble-t-il, doit déterminer la façon dont nous allons nous relier aux autres tout en vivant nous-mêmes dans l'obéissance. Nous n'avons pas à imposer aux autres nos choix personnels. Nous n'avons pas, parce que nous cherchons à vivre de manière claire selon Dieu, à devenir constamment des gens moraux des autres. Nous n'avons pas à faire porter aux autres les conséquences de nos choix personnels. Nous n'avons pas à être durs et cassants là où nous faisons des choix de vie clairs pour nous-mêmes. Et la prudence et l'intelligence doivent nous aider à nous relier aux autres de manière sensée, de manière respectueuse, tout en ayant pour nous des convictions claires et une exigence d'obéissance entière. C'est ce que l'apôtre Pierre demande également dans sa première épître. 1 Pierre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une belle conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ça, c'est l'aspect conviction. Il faut vivre cela de manière cohérente. Chapitre 3, versets 15 et 16. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et là, on voit l'alliance entre une belle conduite éthique cohérente et le respect et la douceur dans notre façon de nous relier, de rendre compte de des raisons pour lesquelles nous agissons, avec douceur et respect. La prudence dans les relations, même alors que nous avons des convictions fortes et des lignes de vie bien nettes. Un bel exemple de cette attitude de prudence dans les relations est donné dans le livre de Daniel. Daniel est exilé à Babylone et on veut faire de lui et de ses compagnons un Babylonien parfaitement assimilé. On lui offre, ainsi qu'à ses compagnons, la meilleure formation, la meilleure place, les meilleures universités de Babylonie et il peut manger à la table du roi. On veut qu'il fasse partie de l'élite du nouveau royaume qui se constitue. Et Daniel accepte d'entrer dans ce processus, mais, nous est-il dit, il prend une ferme résolution dans son cœur, une ferme résolution. Il veillera à respecter les principes alimentaires de la loi de Dieu, qui, pour un Israélite, lui interdisait de manger un certain nombre d'aliments qui étaient considérés comme impurs. Ça, c'est la décision qu'il prend. Mais ce qui est assez remarquable dans ce récit, c'est la subtilité et la délicatesse avec laquelle Daniel met en œuvre cette résolution. Il a décidé dans son cœur qu'il allait tenir droit. Mais il va vers celui qui est responsable du groupe des jeunes gens. Et il prie le chef des eunuques du groupe de lui permettre de ne pas manger de tout. Et puis ils entrent en dialogue. Et le chef des eunuques lui dit ses craintes, lui dit « Oui, mais si moi je désobéis au roi, qu'est-ce qui va se passer ? Si on se rend compte que j'ai désobéi, je risque gros pour moi. » Et Daniel écoute. C'est très intéressant ici de voir que Daniel écoute la difficulté que peut entraîner pour l'autre sa propre prise de position à lui. Il écoute et il propose à cet homme une solution à l'essai. En disant, écoute, on va tenter, on essaye pendant quelques jours, et après cela, tu décideras toi-même de ce qui est bien. Je trouve que c'est une très belle attitude de prudence biblique en ce qui concerne les relations. Daniel n'impose pas sa décision. Il ne dit pas, quoi qu'il arrive, je reste fidèle à mon Dieu, envers et contre tout, je ne veux rien savoir de rien. Ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Il a pris sa résolution dans son cœur, il cherche à trouver la meilleure manière de la faire appliquer. Il a le respect de cet homme qui est en face de lui, il ne veut pas lui faire perdre sa place ou lui faire perdre sa tête à cause de quelque chose qui lui poserait problème. Et on voit vraiment combien ici, il y a à la fois une éthique de conviction et une éthique de responsabilité chez Daniel. Les deux se complètent. Et c'est un beau modèle de prudence biblique. Et je trouve qu'on a à apprendre, il faut qu'on recherche constamment cela. Pas dire, c'est pas parce qu'on a des convictions claires qu'il faut être cassant, qu'il faut être méprisant pour les autres, qu'il faut être dur dans les jugements, etc. On est appelé à exercer la prudence, à être avisé, intelligent dans notre manière de vivre, de discuter, de présenter nos options de vie personnelle. La prudence, donc, conviction, oui, mais prudence dans les relations. Deuxième lieu de prudence, il y a conviction, oui, prudence dans les relations, prudence aussi par rapport aux situations. Il y a dans le livre de l'Ecclésiaste un conseil qui est donné aux justes et aux sages. Et c'est un conseil qui peut un peu surprendre. On va lire ce texte, c'est dans Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7. On va lire les versets 15 à 18. Il parle de toutes les aléas de la vie. Il dit, j'ai vu tout cela pendant ma vaine existante. Il y a tel juste qui périt dans sa justice et tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas sage à l'excès. Pourquoi te ruinerais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès et ne deviens pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci sans laisser échapper cela, car celui qui craint Dieu trouve une issue en toute situation. Ne sois pas juste à l'excès, ne sois pas sage à l'excès. Pourquoi te détruirais-tu, dit l'Ecclésiaste. Comment comprendre ce texte et le mettre en relation avec la prudence dont nous parlons? Le contexte souligne que nous vivons dans un monde imparfait, marqué par bien des injustices. Vous avez lu verset 15. Parfois même, ceux qui agissent injustement, ce sont ceux qui triomphent. Et l'Ecclésiaste dit, oui, voilà le contexte dans lequel nous vivons. Et qui n'est pas toujours bien encourageant, ce contexte. Et c'est donc dans ce contexte qu'il dit, ne soyez pas juste à l'excès, ne soyez pas sage à l'excès. Alors on pourrait peut-être comprendre qu'il propose une sorte de relativisation de la justice et de la sagesse. Sois juste, penserait-on à ce moment-là, tant que ça ne te pose pas trop de problèmes. Sois sage, tant que ça ne fait pas trop de vagues. Ce serait une sorte, dans ce cas-là, d'appel à une justice un peu molle, à une sagesse un peu molle. Sois un peu sage, juste que si ça ne fait pas trop d'histoire. Un appel à jamais payer le prix pour ce que l'on sait être juste ou sage. Je pense que cette piste, il faut la refuser. Et la raison, c'est que l'Ecclésiaste lui-même dénonce les injustices. Et on ne dénonce pas les injustices pour dire ensuite, écoute, sois juste, mais tant que ça ne te fait pas trop de problèmes. Hein. Ce n'est pas tellement ça dont il est question. Une meilleure piste est de chercher la question de l'excès en voyant la question, le contexte dans lequel nous vivons. Le monde est imparfait, dit l'Ecclésiaste, et on ne se trouve jamais dans des conditions idéales. Les gens à qui on a affaire ne sont pas des gens parfaits, et nous non plus, nous ne sommes pas parfaits au milieu de tout cela. Aussi, dans notre condition actuelle, il n'est pas toujours permis d'agir de façon idéale. Il y a des fois où pour réussir à faire un bien réel, il faut se contenter d'un bien relatif. Et être juste à l'excès, ce serait vouloir toujours avoir que l'idéal et ne jamais accepter qu'on puisse devoir se contenter d'un bien relatif ou qui va dans la bonne direction. On ne peut pas non plus aller toujours au bout de tout ce que l'on souhaiterait. Il faut savoir cultiver l'art du compromis, l'art du possible. Il me semble que c'est cela que nous dit l'Ecclésiaste quand il dit « Ne soyez pas juste, ne sois pas juste à l'extrait. » À l'excès, ne sois pas juste à l'excès. À trop vouloir en faire, parfois, à être jusqu'au boutiste en tout, on peut passer à côté de progrès réels qu'on aurait pu vraiment effectuer si on acceptait un bien un peu plus limité. Dans certaines situations aussi, vouloir une justice absolue peut créer plus de mal que de trouver certains compromis. Dieu lui-même, à certains moments, dans des lois qu'il a données, dans sa parole, a tenu compte de la dureté du cœur humain, de la difficulté, de la complexité de certaines situations. C'est vrai, par exemple, pour la question concernant le divorce, Jésus nous le dit. L'objectif, l'idéal du Seigneur, c'est qu'il n'y ait pas de divorce. Et c'est ça ce qu'il veut et qu'il dit. Je hais le divorce à cause de tout ce que ça implique comme douleur, comme difficulté de vie, à cause de toutes les trahisons parfois qui peuvent être liées à cela. Hein, donc c'est quelque chose que Dieu ne veut pas. Mais en même temps, on voit dans la loi de Dieu que le Seigneur organise le divorce. En disant, si des gens divorcent, que ça se passe comme ci, comme ça. Et on voit là que, et Jésus nous dit, si le Seigneur l'a fait, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Donc le Seigneur accepte de prendre en compte des situations humaines et de dire à l'intérieur de cette situation humaine, on essaye de faire le possible aussi et de favoriser ce qui sera le bien le meilleur ou parfois le bien le moins mal dans des situations données. C'est ça, me semble-t-il, que l'Ecclésiaste veut dire. Et à vouloir être juste à l'excès, à vouloir être toujours intransigeant sur tout, on peut arriver à des catastrophes et à faire le contraire du bien qu'il faudrait faire. Voilà donc, si vous voulez, me semble-t-il, le sens de cette expression « ne sois pas juste à l'excès ». Une autre piste de comprendre cette parole concerne la manière d'appliquer et de vivre la justice. Certains, quand ils veulent être justes, prennent une attitude très rigoriste, intransigeante, bornée, tatillonne. On va toujours chercher où il y a le moindre petit détail qui coince, des choses comme cela. Et cette façon de faire pourrait conduire à décourager, à dégoûter même certains de la justice, à devenir injuste. Hein, si on est tout le temps en train de relever la petite chose qui ne va pas et qu'on ne sait pas voir les meilleures lignes, les lignes plus positives de quelqu'un, on n'exerce pas la justice vraiment. Même l'apôtre Paul le dit, « Père, n'irritez pas vos enfants par ce genre d'attitude. » Il est important donc de savoir intégrer aussi un regard qui soit droit, de ne pas être rigoriste dans notre façon de vouloir vivre la justice. Et puis ne sois pas juste à l'excès, cela concerne aussi peut-être les perfectionnistes qui s'abstiennent d'agir s'ils ne sont pas sûrs de pouvoir arriver à un résultat parfait. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça, hein. Si j'arrive pas à faire quelque chose d'absolument parfait, je vais rien faire. Le mieux est parfois l'ennemi du bien. Et donc, il est important de savoir pondérer véritablement ces choses. On a ici donc une affirmation de prudence qui dit nous devons, dans notre façon de vivre la justice, de vivre les principes qui sont les nôtres, nous devons tenir compte des situations, tenir compte de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible. Et là, on s'insère aussi donc dans une éthique de responsabilité. Mais nous sommes appelés à le faire aussi dans la confiance en Dieu en ce qui concerne les issues. Et c'est très intéressant de voir dans ce texte, quand l'Ecclésiaste dit « ne sois pas juste à l'extrait, ne te montre pas sage à l'excès, etc. », Il dit à la fin, verset 18, « Il est bon que tu retiennes ceci, que tu ne négliges point cela. Hein? » Donc que tu gardes le commandement de Dieu, que tu ne négliges pas non plus les situations. « Car, dit-il, celui qui craint Dieu trouve une issue en toute situation. » Et je trouve que c'est très beau ce texte-là, parce que ça dit, il y a des moments où nous sommes appelés à avoir une éthique de la responsabilité qui tient compte des situations, mais nous ne faisons pas comme si nous étions les seuls responsables. Nous pouvons aussi confier cela vraiment à Dieu et dire, celui qui craint Dieu trouve une issue en toute situation. Hein. Il ne trouve pas une issue à cause de lui-même, de sa sagesse, mais parce que Dieu est capable de faire des ouvertures. Et donc nous avons aussi, donc, ici ou là, nous avons aussi cette nécessité de la prudence qui sait tenir compte des situations. Et on le voit de temps en temps bibliquement. On le voit. J'ai parlé du divorce tout à l'heure. Il y a aussi un grand prêtre qui, à un moment donné, a nourri David qui était en fuite. Il n'avait rien à lui donner à manger ainsi qu'à ses hommes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les pains qui étaient réservés normalement, en temps normal, au service de Dieu et de Dieu seul. Et il a bien fait de le faire. Ça, c'est une façon de tenir en compte, de prendre en compte la situation. De ne pas être juste à l'excès en disant « Ah, c'est le pain de Dieu !» Non, là, il y a quelque chose qui peut servir à un homme qui est vraiment en besoin. Il est pris en compte de la situation. La prudence biblique, me semble-t-il, a joué aussi en ce qui concerne la question de l'esclavage dans le Nouveau Testament. On n'a pas remis en question toutes les structures de l'esclavage, ce n'était pas possible de toute façon. Et on n'a pas cherché à le faire de cette façon-là. Mais par contre, donc, on a cherché à instaurer de nouvelles relations en disant, l'esclave, c'est aussi ton frère. Toi qui es maître, considère l'esclave comme quelqu'un qui est aussi ton frère. Tu es un maître, toi aussi, dans les cieux. Il n'y a plus ni esclave ni maître devant Dieu. Donc prudence dans le sens où on tient compte du contexte, et en même temps, dans ce contexte-là, on met un ferment nouveau. Vous voyez donc, ça c'est la vertu de prudence qui a son importance par rapport à la justice ou d'autres. Prudence et conviction, hein, ça nous aide à bien situer ces choses. Troisième volet biblique, c'est prudence et humilité. Donc prudence et sagesse, prudence et conviction, prudence et humilité. La prudence est aussi une vertu d'humilité. Être prudent, c'est le contraire d'être arrogant, d'être imbu de soi, d'être sûr de son fait et de son avis propre. Et il y a deux, trois attitudes très concrètes de prudence qui nous sont présentées dans la Bible et qui vont dans le sens de cette humilité. Première attitude de prudence qui va dans le sens de l'humilité, c'est la priorité que nous sommes appelés à donner à l'écoute. Priorité à l'écoute. Écoutez avant de se prononcer. Jacques 1, versets 19 et 20. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler. Écouter avant de se prononcer. Être prompt à ça. Écouter, prendre le temps de comprendre au mieux avant de réagir. Et c'est pour ça que Jacques dit « Écoutez avant de vous mettre en colère. » Essayez de comprendre la situation. Il y a là une forme concrète de la vertu de prudence qui a trait à l'humilité. Et le fait vraiment d'être prompt à écouter, cela dit vraiment une disposition profonde, de dire vraiment on veut donner priorité à l'écoute, on veut avoir une passion pour l'écoute, parce que l'on veut être juste, parce que l'on veut respecter la situation, parce que l'on veut respecter les personnes. Proverbe 10, verset 19, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. » Ça, c'est pour moi, je parle beaucoup. « Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Vous voyez, cette même idée de l'écoute. Donc, la priorité à l'écoute, c'est une première manière de vivre la prudence dans l'humilité. Une deuxième attitude de prudence humble, c'est l'acceptation des conseils. Accepter les conseils. Solliciter des conseils. Savoir les intégrer. À bien des reprises, la Bible nous y invite. Et la capacité d'accepter des conseils est une question d'humilité. C'est aussi une question de sagesse, parce qu'on a besoin les uns des autres. L'humilité, parce qu'on ne se considère pas comme la mesure de tout. La sagesse, par besoin les uns des autres. Je vous lis quelques textes. Proverbe 11, verset 14. « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, mais le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Et la prudence est liée au grand nombre de conseillers. Proverbe 11, 14. Proverbe 12, verset 15. « La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. » Proverbe 19, verset 20. « Écoute les conseils, reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. » Et alors, ce qui est intéressant aussi, dans Psaume 119, verset 24, il y a un lien qui est fait avec la parole de Dieu, qui dit « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. » Et je trouve que c'est juste intéressant de dire, Psaume 119, verset 24, c'est juste intéressant de dire que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous la lisons, c'est une façon aussi d'écouter les conseils. Tes préceptes sont mes conseillers. Et le fait de vivre cela, pour nous, est une manière aussi de dire dans l'humilité, oui, nous voulons être instruits, recevoir instruction. Vous voyez donc cette importance de l'écoute des conseils. C'est une autre forme de prudence liée à l'humilité. Et c'est intéressant de rappeler ici que l'Église, selon le Nouveau Testament, doit être dirigée de manière collective. Et ça fait partie de cette même logique de prudence. Nous avons besoin les uns des autres. Il est utile, il est salutaire d'avoir des vrais conseillers, qui soient des vrais vis-à-vis, et pas juste simplement l'écho de ce qu'on voudrait nous-mêmes entendre. Ça amène à réfléchir autrement, ça amène à des synthèses plus larges, à intégrer d'autres paramètres. Cela donne de la sagesse. Et la prudence ici est liée à l'humilité et à la sagesse par l'acceptation et l'écoute des conseils. Et puis, autre forme d'humilité liée à la prudence, c'est la prise en compte du danger. La troisième forme de prudence, donc, est le fait qu'il nous faut prendre en compte certaines difficultés, certains dangers. On peut lire ici la parole de Jésus que nous avons lue tout au début, Matthieu 10, verset 16, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Ce texte est très intéressant et très complet sur cette question de la prudence. D'abord, ce texte nous dit qu'il nous faut être prêts à affronter certains dangers. Jésus dit « Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. » Des brebis au milieu de loups, difficile d'envisager une situation plus dangereuse que celle-là. Et Jésus dit « Je vous envoie. » Donc la prudence, ce n'est pas ne prendre aucun risque. Un alpiniste peut être prudent tout en prenant les risques de la montagne. Il sait qu'il prend les risques d'une course en montagne, mais en même temps, il a des prudences dans sa façon de faire. Donc, la prudence n'interdit pas le risque. C'est important. Et c'est ce que dit Jésus quand il dit, voilà, mais je vous envoie même parfois comme des brebis au milieu des loups. Mais en même temps, dans ce contexte de risque, Jésus nous invite à la prudence du serpent. Alors ici, il faut bien noter que Jésus parle de la prudence du serpent. Il ne parle pas de la ruse du serpent. Et le mot prudence et le mot ruse, c'est deux choses très différentes. La prudence du serpent. C'est quoi la prudence du serpent? Il me semble que c'est que le fait que le serpent ne s'expose pas. Un serpent, ça reste la plupart du temps caché. Ça se cache. Ça ne s'expose pas. Il sait fuir quand il ne peut pas réagir. Il est vigilant. Il est en éveil. Mais il n'est pas présomptueux, même s'il a des ressources. Il sait qu'il a du venin, etc. En même temps, il l'utilise que si c'est nécessaire. De manière générale, le serpent est là, c'est se cacher, c'est être vigilant. Et je pense que nous avons à développer aussi cette attitude de prudence dans les choses de la vie. Et d'abord, me semble-t-il, par rapport au mal. Avoir cette forme de prudence par rapport au mal. Ne pas s'exposer. La sagesse biblique, c'est de savoir fuir certaines choses si nous savons qu'elles sont mauvaises ou si nous savons qu'elles risquent d'être trop fortes pour nous. La Bible nous invite à être humbles par rapport au mal. Elle nous demande de ne pas fanfaronner, de ne pas nous croire plus forts que nous ne sommes. Je rappelle cette demande que Jésus a inscrite au cœur du Notre Père, qui est une demande qui nous rappelle, qui nous ramène à notre humilité. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et ça, régulièrement, ça nous rappelle que nous sommes vulnérables à la tentation. La prudence biblique, ce n'est pas s'exposer en disant « moi, je peux y aller hein. ». Pas du tout. Ne nous soumets pas à la tentation. Nous reconnaître vulnérables. Et il arrive aussi que les proverbes nous invitent à fuir ce qui est dangereux plutôt que de jouer avec le feu. Et parfois, on joue avec le feu, on essaye. Et le proverbe dit « attention, fuis, apprendre à fuir. Ne te crois pas au-dessus de tout danger ». Proverbe 22, verset 3, « L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples, eux, avancent et sont punis. » Vous voyez, quelqu'un qui fanfaronne, qui dit « on avance, même s'il y a du mal. » L'homme prudent voit le mal et se cache. Proverbe 22, verset 3. Proverbe 14, verset 16, « Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. » Prudence à avoir. Humilité face au mal. C'est important de pouvoir développer ces attitudes. C'est ça la prudence du serpent à laquelle Jésus nous invite. Hein. Mais en même temps, il ne veut pas qu'on soit toujours soupçonneux de tout. Hein, incapable de vraie confiance et de simplicité en cherchant le mal partout. Et c'est pourquoi il continue en disant « Soyez prudents comme le serpent, mais simples comme la colombe. » Il faut garder cette espèce de simplicité. Et la prudence est importante, mais ne doit pas nous rendre constamment soupçonneux de tout. Ça, ce n'est pas juste non plus. Et un bel équilibre dans ce verset. Donc, prudence et humilité, c'est aussi un aspect important. Et je termine par une toute dernière notation qui est prudence et prévoyance. Prudence et prévoyance. La prudence est aussi justement la prévoyance. C'est développer une éthique de responsabilité pour ce que nous pouvons anticiper et dans la mesure où nous pouvons l'anticiper. Le livre des Proverbes nous invite aussi par des exemples très concrets à cette manière d'agir. Proverbe 10, verset 5. « Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. » Et à un moment donné, hein, pendant l'été, quand c'est la moisson, il faut amasser. Et on le fait parce que on veut pouvoir tenir pendant la saison qui viendra après. C'est la prudence qui anticipe et qui se met en œuvre parce qu'on est prévoyant. Et ce texte très connu, Proverbe 6, versets 6 à 8, « Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies, devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, mais elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. » Prudence et prévoyance. Et Jésus nous recommande d'agir en homme avisé. Il y a une parabole très surprenante qu'il a racontée. La parabole d'un intendant qui devait être licencié. Et à la veille de son licenciement, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chez tous les créanciers de son maître en disant « on diminue la dette de moitié ». Alors ce qu'on pense, hein, juste pour expliquer le côté moral de cette histoire, c'est que c'est possible que lui, en tant qu'intendant, il avait lui-même surévalué la dette. Vous savez, les gens, pour se mettre de l'argent dans les poches, ils faisaient ça. Ils disaient, tu dois ça, plus des intérêts. Et les intérêts, je les prendrai. Donc, il est possible que, d'un point de vue moral, ce gars-là ait plutôt enlevé les sur-intérêts qu'il avait lui-même mis, plutôt que de faire du mal à son maître. Mais il a agi de cette façon-là. Sachant qu'il allait être licencié, il a eu cette action. Et Jésus cite cet homme en exemple. Et il dit, le maître de cet homme loua l'économe infidèle. Bon, il le loue, je pense que c'est dans le contexte que je dis. Hein, parce qu'il avait agi en homme avisé. Et Jésus continue en disant, car les enfants de son siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de la lumière. Ça, c'est très surprenant de la part de Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus dit ? Jésus souligne ici l'esprit de responsabilité et la capacité à anticiper une situation de manière réaliste et concrète, plutôt que de se réfugier dans une sorte de confiance en Dieu, de dire « Dieu se chargera de tout », qui n'est qu'une façon de masquer notre irresponsabilité. Et Jésus n'a pas voulu qu'on rentre dans ce schéma-là. Et il dit, les hommes de ce siècle, qui ne croient pas en Dieu, parfois, ils sont beaucoup plus avisés que des enfants de lumière qui ne prennent pas leurs responsabilités, simplement en disant, Dieu pourvoira, Inch'Allah, etc. Vous voyez, mais on rigole, mais c'est quand même ce qu'on peut faire. Et c'est ici, me semble-t-il, ce que Jésus dénonce. Alors c'est vrai qu'il est important de pouvoir dire « Dieu pourvoira ». Nous l'avons lu dimanche dernier, dans l'histoire du sacrifice d'Isaac. « Dieu pourvoira ». Abraham a eu confiance. Il y a des fois, c'est une vraie marque de confiance que de dire cela. Mais si dire « Dieu pourvoira » est juste une façon de devenir irresponsable, Jésus nous dit « Parfois, les fils de ce siècle sont beaucoup plus avisés que les enfants de lumière. » Ça, je pense qu'il faut... on l'entende, ça fait partie de la prudence au sens biblique. Et cette vertu de prudence qui consiste donc à anticiper l'avenir, à faire preuve de sagesse, c'est quelque chose qui est présent dans la Bible aussi. Lorsque Paul parle de la façon dont il vivait son ministère, il dit voilà, j'étais comme un architecte, moi j'ai posé de bons fondements. Et il dit, mais que chacun qui participe à l'œuvre de Dieu veille à la façon dont il bâtit. L'œuvre de Dieu doit continuer. Il faut bâtir quelque chose de bien maintenant pour que ça puisse continuer ensuite. Et on a cette responsabilité de la façon dont chacun bâtit. Et à la fin de sa vie, Paul a eu le souci de la transmission et des relais. Et il dit à Timothée, écoute, ce que tu as reçu de moi maintenant, tu dois le donner à des hommes capables, des hommes avisés, capables, de fidèles, qui seront capables de le transmettre à d'autres. Tout ça, c'est la prévoyance, la prudence qui vise l'avenir, qui construit l'avenir. Cette attitude responsable face à l'avenir est une autre forme de la prudence. On ne se contente pas de vivre au présent sous prétexte que Dieu aura soin de la suite et des conséquences. Mais on veille aussi à regarder plus loin. Et c'est aussi au nom de cette responsabilité par rapport à l'avenir que, par exemple, l'écologie peut être considérée. L'écologie doit être considérée dans cette ligne-là. Qu'allons-nous léguer à nos enfants ? Qu'allons-nous léguer aux générations futures ? Est-ce que nous avons le droit de tout gâcher aujourd'hui parce que nous voulons consommer à tout cran ? La prudence... la façon d'anticiper l'avenir, cette capacité de prudence, me semble-t-il, dans cette perspective-là, devient aussi une vertu qui doit nous faire réfléchir et qui doit déterminer nos comportements. Alors voilà, on se rend compte que cette vertu de prudence pouvait sembler au début quelque chose de très modeste, d'un peu insignifiant. On découvre aujourd'hui qu'elle est d'une importance assez considérable. Elle protège notre éthique du fanatisme, par l'attention qu'elle s'est donnée aux situations, par le respect des autres aussi qu'elle suppose. Elle enrichit notre éthique de toutes les vertus d'intelligence, de réflexion, de sensibilité, de discernement, de finesse. Et il y a beaucoup à faire là-dessus. Elle nous invite vraiment à développer une éthique de la responsabilité, conjointement à notre éthique de la conviction. Et elle nous positionne dans l'humilité, dans le réalisme par rapport à nous-mêmes, par rapport au possible, sans pourtant rabaisser les objectifs élevés que nous laisse la parole de Dieu. Alors je termine par la parole de Jésus qui dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombins. » Amen.